Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Plusieurs espèces animales jouent un rôle important dans notre environnement. Ces espèces contribuent à la régénération des forêts. C'est le cas des grands mammifères et des primates. Après avoir mangé, leur défécation permet à certaines plantes de pousser. Tuer ces animaux, c'est mettre les forêts en danger, d'après les experts, car cela perturbe le fonctionnement de la nature. Professeur Sango Mutambwe, vous êtes spécialiste en environnement. Vous confirmez que ces espèces animales, notamment les mammifères et les primates, contribuent à la régénération et à la préservation de l'environnement.
Je confirme. Et je ne sais même pas si j'aurais un mot à dire parce que vous avez fait la synthèse de tout ce que je devais dire.
Mais vous avez toujours des choses à dire, ça,
non,
c'est sûr.
C'est normal.
Oui, bien sûr.
Il faut savoir dire, je suis professeur.
Tout à fait.
Bon, donc vous avez tout dit.
Mais veuillez nous expliquer ce mécanisme. Comment,
je vais justement
comment
vous
ça
expliquer.
Se fait exactement, oui.
Il y a ce qu'on appelle le fonctionnement d'un écosystème. Vous allez me dire, l'écosystème, c'est quoi? L'écosystème, c'est, le mot le dit déjà, il y a un système. Vous avez des êtres vivants qu'on appelle biocénoses. Les êtres vivants, c'est comme vous. Les grands mammifères, le petit mammifère, les bactéries, les champignons, les arbres et tout qu'on sort. Nous faisons ce qu'on appelle la biocénose. Mais à côté de la biocénose, vous avez ce qu'on appelle le biotope, le milieu dans lequel nous nous trouvons. Et la biotope et la biocénose forment ce qu'on appelle un écosystème. Et tout fonctionne en harmonie. C'est comme une chaîne de vélo. Quand vous enlevez une dent, et vous ne pouvez plus marcher correctement. Donc, il faut que tout marche. Donc, que tout organisme vivant dans un écosystème a sa place de choix. Il n'y a pas d'organisme à minimiser. Ça signifie que si on est dans un écosystème forestier, ok, les animaux joue un rôle très important. Il y en a qui sont là pour assurer la régénération. Il y en a qui sont là, presque tous d'ailleurs, pour assurer la fertilisation du sol. Mmh. Donc, tous les rôles sont là à jouer et chaque organisme, comme je viens de le dire, a sa position et sa place. Alors, aujourd'hui là, vous prenez un éléphant. Je prends l'exemple de Mayombe. Au Mayombe, dans la forêt de Mayombe, jusque dans les années 46.
Au Bas-Congo.
Au Bas-Congo, oui. Mm-hmm. Donc, vous partez de Kinzambwete jusque Lukula, partout, jusque même Lemba, il y avait des éléphants. Maintenant, ces éléphants sont disparus. On ne trouve aucune trace. Déjà, dans les années 50, les Belges Donis, qui a travaillé beaucoup dans la création de la réserve domaniale de Louki, commençait à sonner, à réclamer, à demander à l'État de veiller à la lutte contre le braconnage des éléphants.
Il y avait des éléphants dans le Mayombe.
Oui. Et cette disparition d'éléphants a entraîné une disparition d'au moins 10 espèces de végétaux. Aujourd'hui, on ne les trouve pas. Pourquoi? Parce que les éléphants sont partis.
Qu'est-ce qu'ils faisaient pour maintenir ces végétaux-là, ces éléphants?
Mais c'est simple. Les éléphants mangent les fruits. Les éléphants mangent les fruits. Mm-hmm. Et ces fruits, une fois le manger, il fait ses caca. Alors, ce que je ne sais pas, si ça s'est fait la même chose qu'ailleurs où j'ai vu, par exemple au Gabon, les éléphants mangent le fruit et leur déjection renferme beaucoup de graines. Et ces graines ne sont consommées, vous les déposez n'importe où, ils ne poussent pas. Mais s'ils sont consommés ensuite par des antilopes, plus particulièrement les sitatougas, ces graines germent de manière extraordinaire. Là, j'ai même, si c'était à la radio, je pouvais vous montrer des photos. Parce que, bon, j'ai géré ces projets au Gabon.
Alors, donc, ça veut dire quoi? Les éléphants font des déjections.
Oui.
Qui sont ensuite consommés par les antilopes.
Par les antilopes.
Et les antilopes, à leur tour, vont faire des déjections.
Et les graines consommées par les antilopes sont germées à quantité industrielle, à 100%. Mais quand, dans les déjections des éléphants, rien ne se produit. Alors, les chercheurs gabonais, tout comme mes Camerounais qui travaillaient à ma direction, étaient en train de chercher les types d'acides peut-être qui attaquent le coq de ces graines consommées par les antilopes. Bon, est-ce qu'à Louki c'était la même chose? Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'antilopes, maintenant disparus, vous ne trouvez que des petits mammifères. Est-ce qu'à l'époque il y avait aussi des mammifères, beaucoup d'antilopes? C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve que 2, 3, 4 espèces. Voilà. Donc, dans le régime alimentaire des animaux, il y a ce qu'on appelle les frugivores qui mangent les fruits. Et dans les déjections, ils renferment les graines qui, une fois dans le sol fertile, ils poussent et font renaître la végétation. En résumé, c'est ça. Mmh. Bon, mais il y a d'autres qui ne consomment pas le fruit, par exemple les abeilles ou les papillons, qui se posent dans des fleurs, ils butinent, et puis vont se mettre, par exemple les fleurs mâles, et puis dans les femelles, ils amènent des pollens, et ces pollens font la fécondation avec d'autres pollens, et ça vous donne des fruits qui vont encore donner des plantes.
Donc, les chimpanzés aussi jouent un rôle.
Exactement, surtout les gorilles.
Les gorilles.
Oui.
Quel est le rôle qu'ils jouent exactement?
Mais justement, ce sont des consommateurs de fruits. Les gorilles mangent le fruit. Même les bonobos ici, ils mangent le fruit. Donc, ce sont ces fruits qui ont des graines, les graines qui germent. C'est tout, c'est simple. Il n'y a pas à faire les mathématiques ni des statistiques pour voir
mais
ça.
Mais comment ces graines, comment se fait cette germination? Parce qu'ils les consomment et leur déjection
contiennent des graines
qui vont germer, naturellement.
Naturellement. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit que dans un écosystème, tout fonctionne comme une chaîne de vélo. Le sol est là pour recevoir ces graines. Il est fertile. D'ailleurs, avec les déjections, le sol même se fertilise et toutes les conditions sont réunies pour pouvoir assurer la fertilisation. Et s'il n'y a même pas la fertilisation, il y a des insectes, il y a des feuilles qui tombent, qui sont là, détruites par les champignons, par des bactéries et tout comme ça, pour assurer la fertilisation du sol. Et les graines qui viennent des déjections, les animaux trouvent un sol fertile pour pouvoir germer.
Mais vous savez, par exemple, au Katanga, on accuse souvent les éléphants de détruire les champs, d'autrui. Les éléphants, quand ils traversent les champs, mais ils font des dégâts extraordinaires. Est-ce qu'on peut dire que ces mêmes éléphants qui contribuent à la régénération des écosystèmes détruisent également, en même temps, les écosystèmes?
Mais la guerre des hommes avec les éléphants, c'est je peux même vous dire qu'il y a notre compatriote qui s'occupe de ces projets éléphants au niveau de l'UICN au Cameroun. La lutte éléphant-homme, ça c'est normal. Sauf que, s'il faut partir de CITES, les éléphants ont raison.
Ils ont raison.
Ils ont raison. Parce que si vous tuez un éléphant, bon, vous avez des problèmes avec l'État.
Ou soit ce sont les agriculteurs qui vont cultiver sur le passage, hein, le chemin par où passent régulièrement les éléphants. Alors d'où ils sont obligés de détruire les champs?
L'éléphant suit un passage, c'est vrai, lorsqu'il trouve ses comptes. Mais quand il n'a plus rien, il change de direction. faut qu'il, c'est en passant qu'il mange, il trouve de quoi manger. Vous comprenez? Mm-hmm. Lorsqu'il ne trouve rien, c'est fini. Dans les milieux encore, comme ce qu'on appelle dans les salines. Les salines, ce qu'on appelle des bailles, c'est-à-dire des marécages salés. Les éléphants créent de ce qu'on appelle des boulevards. Mais dans ces boulevards, vous trouvez ce qu'on appelle les maratassés. Je ne sais pas, je ne connais pas les noms à choses. Et ils bouffent les graines de ces maratassés. Une fois que ces maratassés sont terminés, ils changent de cas. Mais par rapport aux graines des arbres, parce que les maratassés sont, c'est comme ce qu'on emballe, je ne sais pas, les maboké ici. Mais les graines des maratassés poussent directement. Ça ne passe pas par d'autres animaux, ça pousse directement. Mais ça ne pousse pas le même jour. Donc, quand l'éléphant a mangé pendant une semaine, il laisse aussi des déjections. Le temps que ces feuilles poussent, que ces plantes poussent se régénérer, ils vont changer de direction pour revenir peut-être 4, 5, 6 mois après, lorsqu'il y a des jeunes plants qui ont poussé. Donc, ça c'est l'intelligence aussi. Vous diriez que c'est de l'instinct, mais c'est de l'intelligence pour moi, parce qu'ils comprennent. D'ailleurs, si on parle même de l'étymologie des mots, intelligere, c'est quelqu'un qui comprend. Je crois que les éléphants aussi sont intelligents parce qu'ils savent qu'ici, ils ont utilisé ces boulevards pendant autant de mois. Mm-hmm. Maintenant, il y a des maratassés qui ont poussé et ils reviennent au même endroit.
Voilà. Le rôle de certaines espèces animales dans la régénération des plantes, nous recevons aujourd'hui le professeur Mutombo Shango, spécialiste en environnement. En ligne, nous avons Archange Gentil de Kikwit dans la province du Bandundu. Si vous voulez également participer, composez le 081-890-6394.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Le rôle, nous parlons du rôle de certaines espèces animales dans la régénération des plantes. Archange Gentil, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, j'entends votre invité, monsieur le professeur, qui parle de la régénération des écosystèmes avec l'influence de certains mammifères de certains animaux. Nous savons que lorsque cette régénération se fait soit par la pollinisation et cela est accompagné soit par des oiseaux, par des insectes, on parle de l'entomorphie. Mais lui, lorsqu'il nous parle de la régénération qui est faite par les mammifères à base de ce qu'ils consomment et ce qu'ils vont maintenant le jus par l'air déchet organique, c'est ça qui constitue aussi une régénération de forêt. Mais moi, la question que je pose pour le moment, c'est la question de l'encadrement de ces espèces pour que cela ne soit pas abattu. Nous remarquons que quand vous veniez de poser la question par rapport aux éléphants au Katanga qui détruisent les forêts des riverains, cela cause aussi des sérieux problèmes pour la nutrition ou pour la nourriture des populations. Dans notre pays, il faut que le gouvernement puisse un peu prendre à bras et corps cette mesure du tout. Puisque si les éléphants, lorsqu'ils ne sont pas encadrés, ils parviennent aussi à détruire tout ce qui est les populations. On se met tout ce qui est les populations, on fait comme tir pour l'air, nourriture. Mais maintenant, ma question est celle-ci par rapport à l'invité. Est-ce que nous savons que ces mammifères qui participent à la régénération des forêts ou des écosystèmes sont souvent aussi comestibles et sont aussi mangeables par la population? Lorsqu'on nous interdit de les abattre, c'est que les populations n'ont plus besoin de manger la chair, n'ont plus le droit de manger la viande seulement pour préserver les écosystèmes.
Oui.
Bien cela doit se faire de manière à ce que les espèces soient protégées, mais une quantité aussi soit à la portée de l'utilisation pour que...
Pour la consommation. D'accord. Merci, Arkadj, professeur Moutambou.
Merci beaucoup parce que je suis vraiment très à l'aise d'attendre votre question. Premièrement, affaire Roman Fleuve, parce que c'est, je suis dedans. C'est ce qu'on appelle la gestion durable, s'il vous plaît. Mm-hmm. Le terme, c'est la gestion durable. Comment préserver l'écosystème aujourd'hui pour nous et les générations futures? C'est ça votre problème, si j'ai compris. Mais les choses sont simples. Vous dites le gouvernement, j'ai dit non. C'est vrai que notre gouvernement, depuis la loi de 1969, suivie de la loi de 1975, donne le monopole de la gestion de nos différentes ressources à l'ICCN, notre institution de conservation. Et on est fait allusion dans ces deux lois, pas à la communauté locale, rurale ou autochtone. À rien, zéro. Mais comment est-ce que l'ICCN pourra aujourd'hui s'occuper de la gestion de tous ces espaces et même les zones périphériques de zones protégées, des aires protégées, qui sont supposées être de zones exploitables par la population, sans qu'il y ait des limites ou des si vous voulez, un fil conducteur de ce qu'on doit faire? Ça, c'est une question. Donc, les gens ont droit à manger, mais il faut aussi conserver. Mais ne faut pas dire que nos populations sont des cons, ils ne valent rien. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes de gestion, de création, de réserves ou de gestion durable, ça a commencé au 19e siècle. Or, nous avions nos ancêtres qui étaient là depuis longtemps et nous avons trouvé ces ressources. Ça signifie que nous sommes capables d'assurer nous-mêmes nos ressources sans recourir aujourd'hui à l'État. Donc l'État peut être considéré comme un acteur au même titre que les communautés pour la gestion de nos ressources naturelles prévues pour nous-mêmes.
Alors, et ces pour animaux, nos futurs. Alors ces animaux jouent un grand rôle dans la préservation de l'environnement.
Exactement.
Les autochtones, les gens aussi ont besoin de faire la chasse.
Oui, mais
les braconniers également
sont
là.
Oui. Je peux vous dire, moi je viens de la région de Lomé, là, le cœur de ce pays.
Oui.
Où on mange, chez moi on ne mange pas. Les poissons, la pêche ne se fait que de façon pendant la période des soudures.
Là, c'est la viande des gibiers.
C'est le gibier. Oui. Mais vous partez jusqu'aujourd'hui, s'il y a des avions, la viande vient. Non, il ne faut pas prendre les communautés locales ou autochtones comme des destructeurs de ressources naturelles.
Malgré les interdictions, les gens continuent.
Non, mais on interdit à partir du bureau, il faut être sur place. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien d'éléphants nous avons? On va faire des inventaires dans les parcs. Et là où il n'y a pas de parc, vous savez combien? Et ces éléphants sont en train de détruire la nature. Donc, il y a un stock à respecter. Parce que si le stock est dépassé, les éléphants deviennent des dégradateurs de ressources naturelles. Donc, vous comprenez? Donc, où est-ce que la population fait des bêtises lorsqu'aujourd'hui, il assure l'équilibre entre les éléphants et la nature? Donc, il peut y avoir dégradation, c'est vrai. Il peut y avoir utilisation abusive, c'est vrai.
Donc,
mais c'est ce qu'il faut.
Ouais.
Mais il faut équilibrer.
Il faut équilibrer. La chasse doit être contrôlée.
Voilà. Que la gestion de ces ressources ne soit pas l'œuvre de l'État, mais l'œuvre de tous les acteurs. Les acteurs, c'est quoi? Il y a l'État, donc la politique, en commençant même par les chefs de l'État, qui a signé les accords de Yaoundé en 1979, suivi de l'accord de Brazzaville qui est à la base aujourd'hui de ce qu'on appelle le COMIFAC, donc le chef de l'État aussi, et il y a le ministère de l'Environnement. Mais en dehors de ça, vous avez d'autres acteurs de gestion qui sont l'administration, les chercheurs, les ONG, les communautés locales, sans oublier les financiers. Donc c'est tout un tas, tout un monde qui doit assurer la gestion durable de ces ressources. Donc ce n'est pas seulement le problème de l'État.
Voilà. Étienne Kalunga nous appelle de Lumbashi. Dadi Gondele est à Isiro. Étienne, bonjour.
Moi, c'est John Kalunga et non Étienne.
C'est John Kalunga Tatiye. On vous écoute.
Oui. D'accord. Je suis tout à fait d'accord d'attendre notre invité, ce qu'il a expliqué tout au début là. Mm-hmm. Moi, je vais passer par donner notre espèce d'animal.
Oui.
C'est l'animal, à ma langue maternelle, on appelle les zoos. C'est, si vous le voyez, c'est comme un chien. Cet animal, par son intelligence, il va manger n'importe où, mais pour faire le caca, il va le faire à un seul endroit, quelque part.
Vous voulez parler
si
du chacal?
Si vous avez la chance de, qu'il vienne faire ses caca dans votre champ pendant cette période qu'il a voulu, si c'est 3 mois ou bien 4 mois, vous pouvez donc bénéficier même les plantes qui vont pousser, soit les papayers ou soit... les palmiers, ça va pousser peut-être des palmiers de bonne qualité qui va donner une très bonne qualité dans votre champ. Alors, moi, je vais me demander, c'est là, au village, il n'y a rien qui est mis sur pied pour garder ce genre d'animal ou bien les protéger, même pas, aucune idée, mais c'est comme ça, on brille la savane, on ramasse les animaux, on mange, c'est tout et c'est parti.
Bien.
Et je vais voir ce qui donne aussi la disparition de quelques espèces et aussi la fabrication d'armes à feu. Dans la nouvelle technologie, beaucoup d'animaux s'enfuient quand ils attendent les coups de balles. Et toute la chasse aujourd'hui, ce sont les balles depuis qu'on a inventé ce genre des armes à feu. On perd beaucoup d'animaux.
John, alors vous avez parlé de quel... comment s'appelle cet animal-là?
Ça s'appelle le zoo, mais je pense les loups.
Les loups. Voilà.
Bon, loup, ça m'étonnerait.
Il veut parler peut-être du chacal,
Possible.
C'est possible.
Mais
hein.
Vous avez raison, vous ne faites que confirmer ce que je vous avais dit. Donc, ils mangent. Il y a des espèces où ça passe directement dans leur estomac. Et puis, ça incite même le revers de la graine et puis la fertilisation. Mais la population connaît. Vous dites bien, vous savez, quand on fait nos arrière-parents, utiliser le piège. C'est de la chasse artisanale qui doit être même autorisée. C'est peut-être l'introduction de l'argent qui aujourd'hui est à la base de la dégradation de beaucoup de ressources naturelles, en commençant par les éléphants jusqu'aux souris. Aujourd'hui, les gens vont tuer les éléphants pour avoir les ivoires
tout
malgré
ça.
Tout ceci, pour aller vendre
et avoir beaucoup d'argent.
C'est cette introduction de l'argent. C'est nous, là, dans le cadre de notre... Nous disons que nous sommes évolués, qu'ils sommes responsables de ces dégradations.
Un instant, on va accueillir Dadi Gondel et depuis Zéro. Dadi, bonjour. Il n'est plus en ligne. Allez-y, professeur.
Donc, c'est l'introduction de l'argent qui est à la base de la dégradation de ces différentes ressources. Sinon, si aujourd'hui la population est censée, par exemple, dans les parcs, si aujourd'hui qu'on est dans le parc de Virunga, par exemple, ou je ne sais pas n'importe quel, disons même ici en Bombolomene, si la population savait l'importance, par exemple, de protéger le buffle, je tiens à vous signaler ou à porter à l'ignorance de ceux qui ne le savaient pas, au lieu de leur connaissance. Ah oui, mais on peut pas porter à la connaissance de quelqu'un, mais à son ignorance, serait intéressant. En Bombolomene, il y avait de buffles.
Oui.
Le matin, vous vous réveillez, à 3-4 kilomètres, il y avait une saline entretenue par l'ICCN avec l'aide de Kadim, et on pouvait voir des buffles.
En Bombolomene.
Je vous dis, vous vous réveillez.
Où sont passés ces buffles?
Mais voilà, l'homme est intervenu anarchiquement. Ces buffles sont pratiquement disparus, mais on peut les trouver le long de la rivière Lufimi. Et pour les voir, c'est compliqué, alors que sans l'intervention de l'homme, on pouvait les voir facilement le matin, dans ce qu'on appelle Saline Mankoto. Vous comprenez? Donc, l'homme est intervenu, les animaux sont disparus. Voilà. Donc nous sommes... Mais si aujourd'hui, la population teke pouvait comprendre l'importance de voir ces animaux-là, qu'avec la présence de ces animaux, les touristes viendraient en cascade, que grâce à ces animaux, et même vont profiter des fruits de leur nature, ce serait intéressant. Mais quand on arrive, comme je vous ai dit, la loi de 1975... protection intégrale, la population, n'en parlons pas. Elle dit, mais nous allons manger quoi? Aujourd'hui, il y a même des abbés qui ont construit des missions à l'intérieur parce qu'ils n'ont jamais compris le pourquoi, les tenailles et les aboutissants de la conservation. Mais s'ils savaient que les touristes vont passer, ils vont payer autant d'argent, voilà la partie qui reviendra à eux. Si aujourd'hui on sait que les touristes arrivent, ils vont assister à la danse du ticket du coin, ils vont acheter ceci, ils vont profiter, donc ils vont gagner un peu d'argent. Aujourd'hui, c'est cette population devait s'occuper de la protection de la nature sans recourir aux gardes, ni aux gendarmes, ni aux policiers. Vous comprenez?
Chris Mutombo nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody.
On vous
bonjour
écoute.
Aussi à professeur et à tous les auditeurs de la radio.
Nous parlons du rôle de certaines espèces animales dans la régénération de l'environnement. Qu'est-ce que vous avez des plantes? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai bien entendu la façon dont le professeur a pu expliquer. Lorsque il y a un éléphant qui consomme des fruits, après avoir donné du caca, alors les antilopes aussi doivent consommer cela. Alors les graines qui seront consommées dans ces excréments donnés par les éléphants, et lorsque ces antilopes les consomment aussi, ils doivent aussi donner les caca. Et à partir de ces caca-là, germeront des plantes. Alors ma question est celle-ci. Comment appelle-t-on cette étape? Est-ce qu'il y a un peu un terme là approprié que l'on peut appliquer à travers cette procédure là?
Professeur,
le terme, bon, je ne sais pas, c'est le réveil si vous voulez. Vous voyez, c'est il y a beaucoup même de graines ou de semences. Prenons même l'acacia. L'acacia, vous plantez la graine d'acacia crue, ça ne donne rien. Mais il faut passer par le stade de réveil. Vous pouvez le faire, par exemple, en les mettant dans l'eau chaude, ou vous pouvez le faire naturellement, par exemple, ce qu'on fait actuellement à Mampou, c'est de brûler la forêt, la partie travaillée, et avec cette chaleur, on réveille, si vous voulez, la dormance de la graine pour pouvoir pousser. Peut-être vous voulez parler de la réveil de la dormance, c'est cette phase-là de réveil.
Parce qu'il veut comprendre, il y a un animal qui a consommé et qui donne des excréments, et l'antilope vient, consomme ces excréments,
oui,
qui contiennent des graines.
Ça attaque, vous voyez, il y a des sucres. Par exemple, au Gabon, on est en train de... où j'ai participé à la création de ce qu'on appelle une saline. On prend maintenant... On est en train de faire des analyses de coques immédiatement sorties de la déjection des éléphants et de coques sorties de déjection des antilopes. Et on est en train de faire des études, des analyses pour voir les effets probables
de
transit.
Oui.
De transit intestinal des animaux.
Du coq et de quel animal?
Du coq.
Oui.
Quand ça sort de déjection des éléphants,
okay,
qu'est-ce qu'il est? Et quand ça sort de l'autre, qu'est-ce que ça va donner? Donc, il y a un étudiant qui prépare sa thèse sous ma direction
au Gabon,
à Libreville. Voilà.
Et ici, il n'y a pas d'étudiants congolais qui préparent aussi des travaux dans ce sens-là?
Dans ce sens-là, non. À ma connaissance, non.
professeur, pourquoi vous n'encouragez pas vos étudiants aussi à produire, à faire des recherches dans ce domaine-là?
Le professeur est là, le professeur propose, mais le professeur n'impose pas. Vous savez, comme j'ai dit dans certaines émissions ici, l'homme est venu au monde sans l'avoir voulu, alors il est appelé à faire son histoire comme il l'attend. Donc, les professeurs, les parents, les amis proposent, et c'est à l'enfant de choisir ce qu'il veut. Mmh. Parce que si vous lui imposez,
et qu'il échoue, il dira, vous êtes responsable.
Voilà. Donc, voilà.
Vous êtes responsable de son échec. Hein.
Voilà.
Le rôle des certaines espèces animales dans la régénération des plantes. Nous recevons aujourd'hui le professeur Mutambo Shango, spécialiste en environnement. Jean de Dieu Kafuka nous appelle de Kikwit, dans la province du Bandundu. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jodu. Bonjour aussi à notre invité.
On vous écoute, Jean de Dieu.
Oui, je suis content de l'émission. Je voulais aussi juste poser ma déprimée préoccupation. Pour ce qui concerne les chasses, les braconniers là qui viennent en train de faire la chasse abusive, l'État congolais devrait mettre en place une politique de donner des taxes. Celui qui pouvait avoir un arme à feu ou il fait avec ça la chasse, il doit acheter quand même des documents où cette arme là doit quand même être connue officiellement, et qu'on puisse quand même mettre quand même des normes pour commencer à faire la chasse. Vous voyez, du fait qu'on est en train de faire la chasse avec des cartouches, des 5 qui tuent par exemple 2, 4, 5 singes à la fois, vous voyez que même à la forêt, les singes n'existent pas comme il faut, parce que pour trouver ça, il faut faire de longues distances. Même si il y en avait beaucoup, mais ces derniers temps, on ne les voit pas parce que ça devient maintenant un travail où tout le monde se sont donné seulement à faire la chasse. C'est ça qu'on doit quand même mettre une politique de demander des taxes et puis reconnaître tout ce qui tient des armes en fait. Ils doivent être quand même enregistrés et doivent être connus en divagation comme ça. Ma deuxième proposition, je vais demander à notre invité. Maintenant, au moment où on trouve dans une forêt ou bien dans une savane où il y a deux ou trois espèces des animaux,
oui.
Ces espèces-là, quand ils quittent les forêts, ils viennent, ils détruisent le champ. Là où il y a les arachides, on a parlé des arachides, ils viennent, ils détruisent. Et que quand on voulait maintenant dévaster tout ce champ-là, vous voyez que dans cette espèce, ces espèces-là, ils doivent être.
Alors, Jean de Dieu, vous parlez de quelle espèce exactement?
Par exemple, bon, le singe.
Vous voyez ici, après, il y a une espèce d'animaux, les petits singes.
Le petit singe.
Ils tombent dans les champs, des arachides.
Moi-même, j'en ai fait mieux que vous.
Mais ça, ce ne sont même pas des espèces à protéger, à mon humble avis.
Donc, les petits singes font des ravages dans les champs. Ils détruisent tout sur le passage.
Ne vous en faites pas, j'en ai fait autant que vous.
Oui.
Bon. Votre première question, le problème légal, ça existe. Nous avons le code forestier publié en 2002 qui nous donne la ligne de conduite de la gestion des non différentes ressources naturelles. Mais vous constaterez avec moi, je ne suis pas juriste, que ce code, qui est un document capital pour la gestion des non ressources, ne parle de façon éparpillée et je dirais même laconique de la gestion des ressources. On parle des grumes, etc. Mais vous ne trouvez pas la politique. Quelle est la politique que l'État doit adopter? Je dis, juste, il y a l'article 34, quelque chose. On en parle de façon éparpillée et de laconique. Mais par contre, si mes souvenirs sont bons, il y a un document de la politique qui est en élaboration. Je sais que ça a végété beaucoup dans les bureaux du ministère, mais cette politique-là, aujourd'hui, est intégrée dans ce qu'on appelle le programme national forêt environnement eau. Et même dans le DSRP, document de stratégie pour le développement, on en parle aussi. Mais c'est passé de la concrétisation de ce qui est contenu dans cette d'un plan national, programme national et dans les DCRP qui pose, donc il y a encore un ravin. Donc c'est prévu. Mais quand est-ce que ça serait en application? Ça c'est ikertum, comme on dirait en latin. Ça existe.
Ça existe. Bon, revenons aux petits singes, cette histoire des petits singes qui font des ravages dans les champs.
Oui. Ça, je peux vous dire que moi-même, j'en ai travaillé.
Oui.
Mais si l'homme a droit à manger, et les singes non plus, l'homme, le singe a besoin de
nourriture. Alors, il veut savoir, est-ce que ces petits singes-là contribuent à la régénération ou à la destruction de l'environnement?
Pour le paysage, ça entraîne la destruction de ses cultures. Mais je vous dis, bon, chez moi, par exemple, quand j'étais jeune, écoutez, un arbre qui tombe, c'est une source, donc, les trafics des singes. Comment qu'ils viennent manger les maïs et tout qu'on sort, et nous on mettait des pièges. Mais ça c'est de façon artisanale. Vous comprenez? C'est vrai, on tue. Mais ne, si ici il y a 50 singes et qu'on tue 2 ou 3, on assure aussi l'équilibre, non? Voilà.
Alors en définitive,
on en mange, on ne jette pas, mais quand on en mange, il constitue une source de protéines pour l'homme.
Pour l'homme aussi.
Oui, mais comment?
D'où ils jouent un rôle, ils permettent de régénérer les plantes, et l'homme aussi a besoin de ces singes pour la consommation.
Mais exactement.
Alors, vous avez dit qu'il faut créer l'équilibre.
Équilibre?
Oui.
Mais il y a ce qu'on appelle dans l'environnement la gestion du stock. Il faut gérer le stock. Hein? Il ne faut pas protéger pour protéger. Non, ça, ce n'est pas de la protection. Il faut pouvoir gérer toutes les ressources en tenant compte, comme je vous ai dit, de toutes les interactions existantes entre tous les êtres vivants. Ce qui n'est pas évident, mais il faut arriver à faire ce genre de...
Bien. De l'équilibre. Merci, professeur Moutambo Chango, environnementaliste. À la prochaine.
Merci.